Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons la deuxième série de l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 18 et aujourd'hui nous aurons trois petites études. La première, Élie au Carmel. La deuxième, le rejet du peuple d'Israël. La troisième, trois étapes de la vie chrétienne. Chers amis, c'est à un moment spécial de l'histoire d'Israël que Dieu amena une épreuve de force. Il avait dit à Élie de fermer le ciel 3 ans et demi. Mais pour quelle raison? Parce que son peuple adorait le dieu Baal. Or Baal était parmi les païens le dieu de la fécondité, une belle moisson, une excellente vendange. Tout cela, c'était grâce à Baal. Baal recevait les louanges. Les louanges qui devaient, au fond, et tout le monde aurait dû le savoir, devaient revenir à Yahvé l'Éternel, au Dieu de l'univers. Or Dieu, il ne donne pas sa gloire à un autre, surtout à une divinité païenne. Donc, Élie pria et le ciel a été fermé 3 ans et demi. Israël a donc beau de prier Baal jour et nuit, il ne tomba pas une goutte de pluie. Le moment était arrivé de mettre fin à l'épreuve et c'est pourquoi Dieu permit une rencontre entre Élie et Achab. Oh, c'était pas des copains, ils étaient ennemis. À peine Achab a-t-il vu Élie qu'il s'écria « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Je ne trouve point Israël que je puisse savoir que j'ai troublé ce peuple, a répondu Élie. Jamais mon intention était de troubler Israël, mais c'est toi au contraire qui es la cause de tout cela. Et vous pouvez noter 1 roi, chapitre 18, verset 17. C'est souvent ainsi, vous savez, c'est ainsi que l'on réagit quand ça va plus ou moins mal. Alors là, on jette le blâme sur l'autre. Ah, c'est plus facile. On se décharge sur l'autre, bien qu'on ait soi-même en faute. Mais ce n'était pas Élie le responsable, pas du tout. Et dans notre cas, c'était bel et bien Achab. Achab avait une femme nommée Jezabel. C'était une affreuse marâtre. Non seulement elle adorait les idoles, mais elle nourrissait à sa table 450 prophètes. Vous avez bien entendu, il fallait quand même beaucoup d'argent pour cela. Ça devait coûter très cher. 450 prophètes de Baal et encore autant d'Astarté. Alors, Élie demanda de faire venir tous ces fameux, extraordinaires prophètes et on mettrait Dieu à l'épreuve. Chacun va faire un autel Ils apporteront un taureau sur leur autel et moi un taureau sur le mien. Le Dieu, là il faut être sérieux, hein, le Dieu qui allait pouvoir être celui qui répondrait surtout par le feu, ce Dieu-là sera le véritable Dieu. Mais notez la fameuse parole dans 1 Roi chapitre 18 verset 21 où il est dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Voyons, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal et votre Astarté, etc., et tous vos idoles fameuses, allez après eux. Or, actuellement, il y a aussi des chrétiens, oh oui, des chrétiens qui clochent des deux côtés. Il y a même des chrétiens qui consultent les voyantes, hein, le pendule et les lignes des mains, tout en se disant sincèrement chrétiens. Ils ont donc un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. On ne sait jamais s'il nous arrive un pépin, on a l'impression d'être du bon côté. Mais détrompez-vous, ça peut mal finir. Donc ces chrétiens marchent clopin, clopin, boitant, boitant des deux côtés, tout simplement. Ils ne sont pas bons pour le monde, puisqu'ils ont un pied dans l'Église, et ils ne sont pas bons, surtout pas bons du tout, pour l'Église, puisqu'ils ont un pied dans le monde. Or Dieu ne veut pas, il ne veut absolument pas des chrétiens qui clochent des deux côtés. Il veut que nous soyons entièrement à lui, sans réserve. Dieu ne peut soutenir quelqu'un de médiocre, c'est-à-dire quelqu'un qui est tiède. N'est-il pas dit, il vaudrait mieux être froid ou bouillant que tiède? Et chose étrange, les prophètes de Baal ont cru pouvoir faire descendre le feu du ciel. Ils connaissaient assez bien la magie, toutes ces saletés occultes. Ils connaissaient tous ces prophètes de Satan, ils connaissaient le côté obscur. Ils croyaient qu'avec la sorcellerie, ils arriveraient à leur but. Le peuple accepta la compétition. Ah oui, ils en étaient sûrs qu'ils gagneraient, hein. Ah oui, et il dit, c'est très bien, nous, Jean, nous acceptons le même défi, car nous, on croit que nous gagnerons. Mais du côté de Élie, ceux qui étaient de son côté, ceux qui étaient les vrais croyants, eux, ils savaient mieux que ça. Sans se forcer, sans s'exciter, la force tranquille. Il savait tranquillement, relax, que l'Éternel peut répondre par le feu. Mais voyons un peu ce qui s'est passé. Élie dit au peuple que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu non plus. Et puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera celui-là qui sera le vrai, le seul, l'unique Dieu. Ils invoquèrent le nom de Baal et de tous les autres idoles, car il y en avait. Si vous allez aux Indes, même actuellement, vous verrez des milliers d'idoles. Et alors, depuis le matin, tôt le matin, déjà jusqu'à midi, ils ont dit « Baal, ô Baal, réponds-nous !» Je crois qu'il ne faut que quelques secondes pour dire cette prière-là. « Baal, réponds-nous !» Essayez d'imaginer le nombre de celles qui montèrent pendant 4 heures. Toutes ces prières pendant 4 heures, depuis le matin jusqu'à midi. Il y a eu environ des milliers de prières. Mais la chose qui me semble extraordinaire, c'est l'attitude de notre Élie. Pourquoi semblait-il si assuré, si calme, serein? Eh bien, pour deux raisons. Et oui, pour deux raisons. Et croyez-moi, il y avait de quoi d'avoir la conscience tranquille, car Dieu lui avait dit ce qu'il fallait faire, et ensuite, il avait lié, avez-vous bien entendu, il avait lié au nom du Seigneur la puissance des prophètes de Baal. N'oubliez jamais, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes attaqués par les forces occultes, par des démons, par des esprits mauvais, c'est la même chose, ou par quoi que ce soit, si vous êtes attaqués, eh bien, n'oubliez jamais de lier l'ennemi en le saint nom de Jésus-Christ, premièrement, hein. Et deuxièmement, n'oubliez jamais de vous mettre sous la protection du précieux sang de Jésus-Christ. N'oubliez jamais ces deux choses. Élie savait qu'ayant lié, je dis bien lié, ses prophètes, rien pourrait arriver. Il était sûr de cela. Donc, il priait. Et vers midi, il alla voir ce qui se passait. Rien n'était arrivé. Ils prophétisèrent jusqu'à la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Alors Élie leur dit, « Voyons, essayez de crier à haute voix. » Hein? Parce qu'il est peut-être un peu sourd, votre Dieu, ou vos nombreux dieux, puisqu'il se représente Dieu, vos dieux pensent à quelque chose, ou ils sont occupés, ou ils sont partis en voyage, va savoir. Peut-être qu'ils dorment. Alors, essayez de le réveiller en criant beaucoup, beaucoup plus fort. Et ils crièrent à haute voix, et selon leur coutume, ils se firent des incisions, pourquoi pas, hein, et le sang coulait sur eux. Il y en a qui se battent avec des pics en se flagellant le dos jusqu'à ce que le sang coule pour aller vers une soi-disant divinité. Tout cela, évidemment, sans aucun résultat. Alors Élie s'approcha. C'était au moment de l'offrande du soir. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus d'Israël, et c'est avec ces 12 pierres qu'il bâtit son autel. Il fit tout autour un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Après cela, il arrangea le bois, plaça le taureau en morceaux sur l'autel, et puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Ça, c'était le comble. Du reste, il n'y comprenait plus rien. Ils se sont dit, mais il est fou. Avec toute cette eau, comment veut-il que un feu quelconque puisse fonctionner? Et à 3 reprises, ils ont vidé les 4 cruches pleines d'eau sur l'autel. Ensuite, Élie pria. Sa prière n'est pas une simple veine redite, comme un moulin de prière bouddhiste. Oh non, non. Il pria avec toute son âme et de tout son esprit. Il pria en disant « Éternel, ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui même que tu es le seul Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta sainte parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est bien toi l'Éternel, toi qui es le seul Dieu, et que c'est encore toi qui ramène leur cœur, s'ils le veulent bien, avant qu'il soit trop tard. Et voilà que le feu de l'Éternel est tout à coup tombé. Ce feu consuma l'holocauste, le bois, les pierres même, la terre. Ça devait être un feu terrible, d'une chaleur incroyable. Et il absorba instantanément l'eau qui était dans le fossé. Quand les gens ont vu cela, ils tombèrent sur leur visage et ils crièrent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est triste qu'il en faut venir là pour enfin reconnaître que l'Éternel est le seul Dieu. Sur la terre, il n'y a plus d'autel comme autrefois, c'est clair. Il n'y a plus d'holocauste. Mais Dieu cherche des autels, car il veut des vrais, des adorateurs qui sont convaincus, qui sont zélés. L'autel qu'il désire, c'est votre cœur, âme et esprit. Mais un autel sans sacrifice n'a absolument pas de valeur. Et c'est pourquoi Dieu a donné un sacrifice valable pour tous les temps, c'est-à-dire son Fils le Seigneur Jésus-Christ. L'autel, c'est donc votre cœur, âme et esprit. Dieu veut que sur cet autel, vous placiez le Seigneur Jésus-Christ et personne d'autre. Mais il faut quelque chose de plus. Il faut encore le feu. Et le feu représente le Saint-Esprit. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, il veut vous l'envoyer comme il a envoyé sur l'autel d'Élie. Pas de problème là-dessus. Deuxièmement, nous avons le rejet du peuple d'Israël. La Bible dit dans Romains, au chapitre 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Romains 11, verset 25. Pour bien comprendre la pensée de Dieu, il faut ou il faudrait lire tout le chapitre 11, je dis bien le chapitre 11 des Romains. Et là, le verset 25 nous en donne un concentré. Car lorsque l'Église était à ses débuts, elle était formée presque uniquement de Juifs. Ensuite, les païens sont entrés en grand nombre et aujourd'hui, l'Église est en presque totalité composée de gens que les Juifs appelaient les gentils, c'est-à-dire les non-Juifs. Car comme nous le révèle ce passage, une grande partie d'Israël est tombée, malheureusement, dans l'endurcissement. Et quand le nombre de païens fixés par Dieu sera au complet, et que tous seront entrés dans l'Église, il s'occupera à nouveau des Juifs. Pour préciser ma pensée, je voudrais citer le verset 12, de Romains 11. Or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Il y a donc un moment où tout Israël se convertira. Il y aura un tel moment et on n'en est pas très loin. Ce jour arrivera quand Jésus-Christ reviendra dans la gloire, entouré des armées du ciel, ayant les marques de la croix dans sa chair. Ce peuple passera par un jour de véritables expiations et, en un seul jour, il reviendra le peuple de Dieu. Dans son amoindrissement, il nous a apporté la richesse. Au début de son ministère, Jésus a dit « Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais quand le peuple juif l'a rejeté, Jésus a donné à ses disciples, il leur a donné l'ordre de se tourner vers les païens et c'est pourquoi nous nous réjouissons de la richesse de ce salut que les enfants d'Israël ont rejeté. Voyez aussi avec moi le verset 15. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts. Et dans ce passage, il y a toute une profondeur de pensée, car lorsque les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, le monde entier a pu voir un contact avec Jésus-Christ, un contact qu'il n'avait pas avant la venue de Jésus-Christ. Seul Israël jouissait un peu de ce contact-là. Mais maintenant, nous, les païens, nous sommes réconciliés avec Dieu par ce rejet. Et quand ils reconnaîtront leur Messie, ce sera une résurrection d'entre les morts. Dans le plan de Dieu, la résurrection des morts est la transformation du corps des chrétiens qui aura lieu juste avant la réconciliation d'Israël avec Dieu. Nous, chrétiens, nous vivons à ce moment-là. Nous serons enlevés. D'un côté, il y aura la réconciliation avec le peuple terrestre et de l'autre, l'enlèvement du peuple céleste. N'oubliez pas que Dieu a dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, eh bien compte-les. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse, chapitre 15, verset 5. La postérité d'Abraham, ça c'est le peuple d'Israël, mais c'est aussi le peuple chrétien. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul écrivait dans Galates, chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Dieu a jeté ses regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Actuellement, on nous appelle les chrétiens et nous portons en effet le nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes le peuple de Dieu. Il est même dit que dans l'éternité, nous porterons le nom de notre Dieu sur notre front. Mais revenons un peu à notre idée centrale, contenue dans Romains chapitre 11, verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, malheureusement, et cela jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, là surviendra un événement extraordinaire dont les conséquences seront magnifiques. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur, il viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Cet événement, c'est le retour de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël le reconnaît maintenant comme Messie. Et voici ce qui est annoncé. Et ce sera mon alliance avec eux. C'est mon alliance lorsque j'ôterai leur péché. Romains, chapitre 11, verset 27. Nous devons donc nous rappeler que Abraham a reçu un appel de Dieu et des promesses concernant sa postérité. La postérité, c'est Israël. Or, le fait d'avoir rejeté Jésus-Christ n'a pas changé les promesses de Dieu. Dieu est fidèle jusqu'au bout. Et au moment choisi, Jésus-Christ ramènera Israël. Il participera d'une façon effective au règne de 1000 ans sur la terre. On appelle cela le millénium. L'appel de Dieu est absolument irrévocable. N'est-il pas écrit dans Romains chapitre 11, verset 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Il n'est pas comme nous. Qu'est-ce qu'on dit, nous ? Oh là là, j'ai déjà entendu ça. Je te pardonne, mais j'oublierai jamais. Quelle horreur ! Croyez-vous que ça, c'est vraiment un pardon ? Il y a, chers amis, un plan de Dieu à l'égard du peuple juif, ça c'est clair. Et ce plan, il va certainement le réaliser plus vite que nous le pensons, surtout quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous ces derniers temps. Notre troisième petite étude, c'est les trois étapes de la vie chrétienne. Nous lisons dans Philippiens, au chapitre 2, depuis le verset 5 jusqu'au verset 11, eh bien, nous lisons ensemble ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Dans la vie chrétienne, nous devons passer par trois étapes. Tout d'abord la crèche, la croix, et je le souhaite, la couronne. Mais considérons tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa gloire éternelle. Et cette lumière merveilleuse qui l'entourait dans le ciel. Là, il a pris la forme de serviteur. Je répète, un jour, le Fils de Dieu s'est dépouillé totalement de sa gloire éternelle, de cette lumière fabuleuse, merveilleuse, qui l'entourait dans le ciel. Il s'en est dépouillé pour prendre la forme de serviteur. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 5, cela nous est expliqué très clairement. Jésus a dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Avant que le Seigneur Jésus ne quitte le ciel, un corps était préparé pour lui. Et lorsqu'il est arrivé accompagné d'une multitude d'anges qui chantaient des cantiques magnifiques, il a pris possession de ce corps et il est apparu comme un simple homme, tout en restant fils de Dieu. Il n'a jamais abandonné sa position élevée. Cependant, dans la crèche de Bethléem, il y avait un bébé qui ressemblait à tous les autres. La seule différence, c'est qu'il avait été conçu du Saint-Esprit. Néanmoins, il avait la même chair que nous, la même nature que nous. Dieu a fait à la race humaine un honneur suprême en l'élevant à sa droite dans le ciel. Jésus-Christ apparut comme un simple homme. Cependant, avant de commencer son ministère, il a attendu d'être revêtu de la puissance d'en haut. Il aurait pu commencer son ministère beaucoup plus tôt, car il connaissait parfaitement les Saintes Écritures. À l'âge de 12 ans déjà, il pouvait confondre les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Mais il attendit l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Il y a des jeunes, quand ils se convertissent, très très jeunes, heureusement, c'est le meilleur moment. Où ça va moins bien, c'est qu'ils pensent qu'en une ou deux semaines, ils peuvent être plus avancés que les anciens. Peut-être, mais c'est pas bon. Il faut attendre, comme le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir un peu de patience pour acquérir la maturité. Donc, le Seigneur opéra comme un homme baptisé du Saint-Esprit qui est revêtu des dons spirituels. Et ça, on ne peut pas l'être après quelques semaines de conversion. Ensuite, après avoir souffert et donné sa vie sur la croix, il est monté au ciel. Jésus-Christ a donc été homme comme nous ayons revêtu notre nature. Dans la gloire, nous avons un souverain sacrificateur. Il est touché quand il voit nos peines, quand il voit nos désappointements et notre désarroi. Ça le touche et il est prêt de nous aider pour que nous puissions nous en sortir. Il a connu toutes nos souffrances et les misères, à l'exception du péché. Ah oui. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un pour l'attendrir. Il a été homme comme nous. Il a souffert de la même manière. Mais beaucoup plus, oh, beaucoup plus, car saint Paul nous dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il occupait la plus haute place dans le ciel. Il a abandonné sa lumière et sa gloire, et il a accepté de prendre sur la terre la place la plus basse. Il a accepté de porter sur lui tout le poids de nos péchés et de les exposer sur le bois maudit de la croix. N'oubliez pas que Jésus-Christ était juif et il est écrit dans la loi « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. Quand les juifs ont regardé Jésus cloué sur la croix, bien sûr, ils l'ont considéré comme un sujet d'opprobre. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont même injurié. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru qu'il était maudit de Dieu. Je vous dis cela pour vous montrer combien Jésus s'est humilié lorsqu'il s'est rendu obéissant. Car en allant vers Golgotha, il y a quelque chose qui le faisait frémir. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémané, il a prié le Père instamment en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais uniquement la tienne. » On peut dire en Saint-Luc, oui, dans l'évangile de Saint-Luc, là on nous donne les détails suivants. Je crois que c'est Saint-Luc chapitre 22 et versets 42 à 44. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il s'est donc rendu obéissant jusqu'à la mort la plus infâme pour laver notre cœur, pour nettoyer notre vie et pour nous sauver. Béni soit donc son saint nom. Je dois aussi vous dire que c'est dans l'obéissance de la croix qu'il a reçu, là il a reçu la couronne, dans l'obéissance à la croix. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est donc maintenant au ciel couronné de gloire et d'honneur. Tout genou fléchit devant lui. Il est écrit que ceux qui sont dans le ciel fléchiront le genou, mais ceux qui sont sur la terre le feront aussi. Quand Jésus reviendra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et il entendra sur la terre son royaume. Il étendra, il va donc étendre son royaume sur toute la surface de la terre, un royaume de paix et un royaume de justice. Ce sera plus comme maintenant, l'injustice. Et en ce temps-là, il n'apparaîtra plus comme un simple homme, oh non, mais il apparaîtra comme le Fils de Dieu à qui le Père a donné le royaume. Et par un décret divin, il sera le roi de toute la terre. Mais il est aussi écrit que ceux qui sont sous la terre, ah oui, c'est écrit, même ceux-là fléchiront le genou. Mais voyons, qui sont-ils ceux-là? Eh bien, ce sont ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est vrai, et qui attendent le jugement. Et quand ils comparaîtront, parce qu'ils vont comparaître devant le Seigneur des Seigneurs, qui sera, lui, assis sur le trône, alors là, ils fléchiront le genou devant lui. Voyez comment on y arrive. Ils fléchiront le genou devant lui. Jésus-Christ, il est passé, comme nous le savons, tout d'abord par cette simple crèche, pour terminer, par la croix. Et maintenant, il est couronné de gloire et d'honneur. Or, dans notre vie chrétienne, nous devons passer par ces trois phases, mais elles ne sont peut-être pas ce que vous pensez. Si Jésus-Christ est né dans une crèche pour devenir homme, nous, pour devenir enfant de Dieu, il nous faut naître de nouveau, c'est clair. Jésus l'a dit à Nicodème, rappelez-vous. Il lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il affirme, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, ne comptez pas sur votre naissance naturelle pour hériter du royaume de Dieu. Ne comptez pas sur vos parents et arrière-parents parce que ils étaient peut-être fidèles dans leur église et fidèles au Seigneur. Mais il vous faut passer, vous, personnellement, par la nouvelle naissance. Ce n'est pas un héritage transmis automatiquement. Et on l'expérimente, et cela, on peut seulement l'expérimenter quand on accepte la sainte parole de Dieu dans son cœur. Cela, ça, c'est l'expérience de la crèche, en quelque sorte. On se trouve dans la crèche et on vient vraiment à la vie épanouie, adulte, par Jésus-Christ, par le salut. Nous arrivons maintenant à l'expérience de la croix. Oui, Dieu laisse cette expérience à notre libre arbitre. Nous sommes entièrement libres, il ne nous force pas. Nous pouvons l'accepter ou le rejeter. Je vous propose donc deux versets. D'abord, Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38. Nous terminerons bientôt cette étude. Alors écoutez bien Matthieu, chapitre 10, verset 38. « Celui qui ne prend pas sa propre croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Cela ne veut pas dire que c'est à nous de porter la croix à nous tout seuls. Il l'a portée pour nous, ça c'est clair. Mais ça veut simplement dire d'avancer maintenant totalement différemment que dans le passé. Par conséquent, il nous est possible de prendre la croix ou de ne pas la prendre, d'accepter sa main tendue ou de la refuser. Nous avons devant nous un choix et Dieu nous laisse totalement libres. Ensuite, c'est Saint Matthieu, chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous avez compris, il y a encore cette pensée de se charger de la croix ou de ne pas s'en charger du tout. Nous avons deux possibilités. Mais qu'est-ce que veut dire porter la croix du Seigneur? Voyez-vous, rappelez-vous qu'il l'a portée pour nous. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas tout faire pour pouvoir être obéissants, zélés, pleins de motivation pour lui, pour obéir à ses critères. C'est donc suivre le Seigneur pas à pas dans son chemin. Si vous êtes un jour malade, eh bien nous pouvons venir à sa croix où il a versé son sang précieux et nous pouvons demander la guérison dans son saint nom. Car il est prêt à nous aider, de nous soutenir. Il ne veut pas du tout notre malheur. Il n'a pas du tout plaisir, comme certains pensent. Plus nous souffrons, plus nous serons dignes de lui. Non, non, non. Ça, c'est pas vrai. Il nous désire, si possible, en bonne santé pour le servir, non pas dans un lit mourant déjà à l'âge de 20 ans. Ça viendra assez vite. Avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre a évité la croix. Il a essayé de l'éviter. Il a même renié Jésus et il n'a pas voulu porter l'opprobre de Christ. Mais un peu plus tard, quand il a enfin reçu le baptême de l'Esprit Saint et qu'il comparaissait devant le Sanhédrin qui le menaçait, il a affirmé avec beaucoup de force: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu, selon la version Darby. À Pierre, l'apôtre Pierre, il n'avait non plus peur. Il n'avait du reste jamais tellement peur. Il était bouillant, il était plein d'ardeur et de zèle, et c'était pas un dormeur, mais quelqu'un qui se remuait. Et dans la prison, et jusqu'au bout, il a porté l'opprobre de Christ. Il était obéissant jusqu'au bout. Si vous êtes vraiment chrétien, et si vous êtes décidé à suivre Christ, vous porterez l'opprobre. On vous reconnaîtra partout. Il y a des moments où l'on ne peut rester silencieux. C'est pas toujours possible. Sachez que si vous n'êtes pas candidat pour la croix, vous ne le serez pas pour la couronne, surtout pas. J'aimerais vous parler de la couronne dont il est question dans la Sainte Parole de Dieu et comment nous pouvons obtenir cette couronne. Nous lisons, je crois, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ce sera beaucoup mieux que la couronne gagnée aux Jeux olympiques. Je pense que l'apôtre Paul faisait allusion à ceux qui obtenaient le premier prix aux Jeux olympiques. Ces gens-là devaient s'abstenir de bien des choses afin d'être en forme pour remporter une couronne de laurier qui allait bientôt se flétrir, et ils ne pouvaient pas l'amener dans l'au-delà. Jamais. Pour nous qui sommes sauvés, pour vous, chers frères et sœurs, il y a une couronne incorruptible qui vous est réservée. Cependant, avant de recevoir cette fameuse couronne, il faut passer par la croix. Eh oui, notez et lisez, sitôt que vous aurez le temps, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Là, il est dit, « Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Donc, si vous devez supporter un peu de persécution à cause de votre foi, ça arrivera tôt ou tard, acceptez cela, car au ciel, vous aurez un poids éternel de gloire. Oui, ça ne sera pas un poids lourd à porter, ce sera tout autre chose, ce sera une couronne. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Si nous persévérons, alors nous régnerons aussi avec lui. » Nous devons donc persévérer, c'est pas facile. Si nous le renions, lui aussi va nous renier. Si nous sommes infidèles, lui, par contre, demeure fidèle. Il ne nous rejette pas comme ça, comme une vieille patte, car il ne peut se renier lui-même. Dieu nous demande donc tout d'abord de passer par la nouvelle naissance. La pierre de touche de cette expérience, c'est celle-ci, que les choses anciennes vont donc être passées, vont faire partie du passé, et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. C'est pas la même chose. Et après cela, nous serons prêts à porter la croix. Et si ici-bas, nous portons la croix, alors plus tard au ciel, nous porterons la couronne. Ce sera pas un poids dans le sens pénible, mais ce sera une joie, un bonheur éternel. Maintenant, pour conclure, eh bien, je voudrais revenir à cette pensée où tous les hommes et les femmes fléchiront le genou devant Jésus-Christ. Pour vous, il y a aujourd'hui un choix sérieux, un choix qui sera déterminant. Vous pouvez ici-bas, tout simplement, humblement, dans votre chambre, dans votre cuisine, n'importe, fléchir le genou devant Jésus-Christ et accepter sa main tendue pour être sauvé. Ou bien vous pouvez refuser. Ça s'appelle le libre choix. Mais sachez que vous pouvez le faire de votre plein gré. Et là, en le faisant, vous serez sauvé. Mais si vous le rejetez, vous serez perdu, malheureusement. Je crois que c'est correct, voyez-vous. On ne peut pas tout avoir. Comme quelqu'un disait, on ne peut pas avoir le lait, la crème, le fromage et la vache, et pourquoi pas encore la paysanne. Non, 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 faut pas exagérer. Acceptez donc tout simplement cette main tendue, et croyez-moi, vous recevrez beaucoup plus que ce que je viens de vous dire avec un peu d'humour. Vous recevrez le salut éternel. À bientôt, mes chers amis, nous allons terminer donc par la prière, si vous le voulez bien. Il est dit au sujet de la prière des choses souvent très intéressantes. Comme je l'ai déjà dit une fois, prier, c'est pouvoir tout dire à celui dont l'amour est absolument sans borne et la puissance illimitée est en lui. Dans ce cas, que pourrait-il nous manquer? Il ne nous manquera plus rien. Prions donc simplement, si vous le voulez bien. Seigneur, en effet, tu es le pain de la vie. Jésus-Christ, tu as prononcé des paroles merveilleuses pour me montrer qui tu es pour moi. Tu as dit que tu es le pain de vie, le pain véritable qui est descendu du ciel. Tu es en effet comme le pain qui me donne des forces pour le chemin, qui me fortifie quand je me sens épuisé. Tu assouvis ma faim de vivre et d'aimer. Quand je te sens présent, je n'ai plus besoin de combler ma faim avec des aliments. Alors je peux profiter de ce qui me rassasie, car tu es comparé au pain que Dieu a donné au peuple d'Israël dans le désert. Quand je me sens parfois comme au désert, abandonné, incompris même de mes proches, de mes amis, alors tu es comme le pain qui me nourrit. Quand tu es auprès de moi, je ne me sens plus seul. Je sais que tu me comprends, et cela me nourrit. Je puis en vivre vraiment. Aussi je te remercie parce que tu es, en effet, le pain de la vie, le pain de ma vie. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et, Dieu voulant, à demain matin, pour la suite de cette deuxième série, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, il vous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. À demain matin donc. Au revoir, très chers amis.